Vous écoutez, on lit pour vous.
On traite cette génération comme des rats de laboratoire. Un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 29 août 2023 dans la presse. Quand un élève garde le regard scotché sur son iPad scolaire, Natacha Bernard avite la puce à l'oreille. Plusieurs jeunes divisent leur écran en deux pour aller sur des sites de jeux ou sur Netflix avec des sous-titres, explique l'enseignante d'éthique et culture religieuse qui préfère parler à titre personnel, sans nommer son établissement. Dans la majorité des collèges privés comme le sien, situé dans l'est de Montréal, chaque adolescent doit utiliser un écran au quotidien. Mais l'an dernier, Natacha Bernard a cessé d'y avoir recours avec ses groupes de 4e et 5e secondaire. Leur technodépendance était rendue ingérable. Ils n'arrivent plus à tolérer l'ennui. À la seconde où ils terminent leur travail, ils se remettent à jouer, pareil aux pauses et à l'heure du dîner. Des élèves deviennent si envahis par les notifications qu'ils ne savent plus ce qui est prioritaire. Pour leur bien, l'enseignante de 34 ans a donc renoué avec le papier. Leur cerveau a vraiment besoin d'un break d'écran, selon Natacha Bernard. À l'école secondaire Paul Arsenault, dans Lanaudière, Mélanie Beauchemin a aussi délaissé les écrans. À regret, dans son cas, car l'enseignante d'histoire trouvait très pertinents les projets et les recherches qu'il rendait possibles. Pour 1500 élèves, son collège public dispose d'environ 150 appareils répartis sur 4 chariots. L'enseignante, qui compte 27 ans d'expérience, devait réserver l'un d'eux jusqu'à 2 mois d'avance pour constater avec dépit que des ordinateurs étaient défectueux ou déchargés et que l'unique technicien était pris dans l'une des 3 autres écoles dont il s'occupe. J'entendais sans arrêt « Madame, ça ne fonctionne pas ». Alors les élèves devaient utiliser leur cellulaire pour terminer le travail prévu. Ça venait tout bousiller à cause de leurs notifications. En maths, un garçon a crié « Waouh !» pendant une période d'autocorrection en ligne. « Il était en train de regarder la Coupe du monde », s'exclame Mélanie Beauchemin. À la demande du ministre de l'Éducation, les écoles publiques devront bientôt empêcher les élèves d'utiliser leur téléphone intelligent en classe, sauf s'ils le font à l'invitation de leur enseignant. Cette solution de fortune est répandue dans le réseau parce que trop d'établissements manquent de soutien informatique et de matériel adéquat. Mais Mme Beauchemin préfère bannir les appareils personnels en toutes circonstances, les jugeant trop nocifs pour être pédagogiques. Dans ma classe, les élèves devaient déjà ranger leur appareil dans une pochette à la porte. Ils trouvent ça difficile au début, mais ils comprennent. En 2013, lors d'une étude faite dans 18 écoles québécoises ayant adopté la tablette iPad, 99 % des 6359 élèves et enseignants interrogés la qualifiaient déjà de « source de distraction majeure ». Plus du tiers des jeunes admettaient jouer en plein cours. C'est vraiment intense, tout le monde s'écrie « et toi ?» « Tu réponds », avait révélé un adolescent. Aucun élève n'a affirmé que la tablette l'aidait à apprendre. 1 sur 8 a plutôt déclaré qu'elle nuisait à sa réussite. Plusieurs participants ont néanmoins reconnu des vertus à leur tablette. 1 élève sur 4 la trouvant, par exemple, motivante. 88,5 %, proportion des 6057 élèves interrogés en 2013 qui utilisaient l'iPad plus de la moitié du temps de classe. Selon l'iPad à l'école, usage, avantages et défis, résultat d'une enquête auprès de 6057 élèves et 302 enseignants du Québec, Canada, 2013. Ce qui a poussé les auteurs de l'étude à conclure que ces avantages dépassaient les défis rencontrés et que l'implanter constituait une prise de risque nécessaire. 10 ans plus tard, les tablettes, Chromebooks et ordinateurs portables sont utilisés à différentes échelles dans presque toutes les écoles québécoises. Et leurs usages semblent de plus en plus variés et poussés. Le chercheur Patrick Giroux, qui aide les établissements à accueillir ces technologies, reste persuadé de leurs bienfaits. Ce qu'il faut couper, c'est les 25 heures passées à regarder une mauvaise série Netflix ou à jouer avec une console Switch toute la fin de semaine. Pas le bon temps d'écran à l'école, juge le professeur qui enseigne à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous écoutez, on traite cette génération comme des rats de laboratoire. Un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 29 août 2023 dans la presse. Des laboratoires à ciel ouvert. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, on manque toujours de données solides et impartiales sur la valeur ajoutée que les technologies apportent à l'éducation. Certaines se sont révélées néfastes pour l'apprentissage ou la santé. Et puisque les technologies déferlent la folle cadence, prendre des décisions éclairées devient impossible, déplore l'organisme, inquiet du peu de précautions avec lesquelles les écoles les adoptent. Interrogé fin juin, un mois avant la publication du rapport de l'UNESCO, une quinzaine d'enseignants et d'experts québécois se montraient déjà intarissables. Cloisonner le bon et le mauvais temps d'écran n'a rien de simple, selon eux, puisque trop d'élèves savent déjouer les blocages de sites web et font tout à la fois. Ces outils puissants peuvent accentuer les vulnérabilités des ados, mais on les met entre leurs mains à toute heure de la journée, comme si c'était banal, nous dit Marie-Josée Dallaire, vice-présidente à la recherche de la Fédération du personnel de l'enseignement privé. A-t-on créé des laboratoires à ciel ouvert? Pour offrir un environnement sûr, ça prend une réflexion profonde sur ce qui convient comme âge, nombre d'heures et contenu. Les enseignants des écoles publiques ont justement demandé à un regroupement syndical, la Fédération autonome de l'enseignement, de se positionner bientôt. Dès 2021, un autre groupe important a réclamé des politiques de déconnexion en milieu scolaire, en raison du manque d'attention des élèves et des impacts non négligeables des écrans sur leur vision et leur posture. Des élèves ont désormais une calligraphie exécrable, rapporte Mme Dallaire. D'autres ne s'efforcent plus d'apprendre à conjuguer ou à s'organiser, les outils numériques se transformant en béquilles. Résultat, quand l'enfant passe au cégep, où tout n'est plus prémâché pour lui, il manque d'autonomie, constate-t-elle. Ça crée énormément d'anxiété et d'échecs. On doit le préparer à fonctionner dans notre monde numérique, mais pas au détriment d'autres compétences essentielles pour réussir sa vie. D'après Linda Pagani, psychologue clinicienne et chercheuse au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, les écoles ont plongé par peur de ne pas être dans le coup. Ce n'est jamais une bonne raison. Le Canada n'approuvera pas un médicament prometteur avant de savoir si trop d'effets négatifs apparaissent à long terme, rappelle la spécialiste des facteurs de développement du cerveau, aussi professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. De nos jours, un jeune sur quatre recevra un diagnostic de santé mentale avant l'âge de 25 ans, et l'excès d'électronique est un facteur de risque indéniable, affirme la chercheuse. Avec tous les algorithmes qui favorisent la dépendance aux écrans, c'est comme si l'école donnait des cigarettes aux élèves. Il y a même un phénomène de fumée secondaire, rapporte Linda Pagani. Les jeunes qui tentent d'écouter se font déconcentrer ou entraîner par ceux qui leur écrivent ou jouent juste à côté, explique la docteure Pagani. Bien sûr, convient-elle, les adolescents arrivent en classe déjà sursaturés d'électronique et les parents doivent apporter leur contribution pour les déprogrammer. Mais ce n'est pas une raison pour renforcer leurs mauvaises habitudes à l'école. Il faut absolument arrêter ça. Les fonds publics devraient servir à diplômer des jeunes compétents sur les plans psychologiques et social. Croire qu'il suffit d'informer les jeunes des dangers est illusoire, pense-t-elle. Ça revient à donner du chocolat à un enfant en lui disant de le manger seulement en cas d'urgence. L'essai « Bienvenue dans la machine », publié cette année, prône aussi un moratoire. Malgré tous les signaux d'alarme qui s'additionnent, on continue de foncer dans la même direction toxique, tonne l'un des co-auteurs, Éric Martin. C'est hallucinant. On traite cette génération comme des rats de laboratoire. Si on veut améliorer l'éducation, réduisons les groupes pour que les profs aient le temps de s'occuper de chaque enfant au lieu d'investir dans ces machines à l'infini, plaide M. Martin, qui enseigne la philosophie au cégep. Pour le chercheur Patrick Giroux, ça prend plus de technologie, pas moins. Si l'école ne développe pas les compétences numériques, la société entière va crier au meurtre. Elles font partie des choses les plus importantes pour les employeurs. À l'université, plusieurs étudiants ne savent toujours pas réaliser une recherche efficace sur l'Internet. Et je reçois des courriels sans salutation, avec juste une grosse question en majuscule. Le personnel scolaire débordé aurait besoin d'aide et de temps pour intervenir auprès des élèves obnubilés par leur appareil, réclame-t-il. De son côté, Natacha Bernard compte donner la priorité au papier encore cette année. Des jeunes de son école ont répondu aux mêmes questions sur des supports différents, relate-t-elle. Sur Google Formulaire, ils ont expédié l'examen en 15 minutes. Sur papier, ils sont restés deux fois plus longtemps et ont bien mieux réussi. C'est comme si les adolescents étaient conditionnés à rester en surface sur un écran. Les écrans sont aujourd'hui utilisés dans presque toutes les écoles du Québec. Combien de temps les élèves québécois interagissent-ils avec un écran à l'école? Difficile à dire, sinon qu'en moyenne, ceux du réseau privé les utilisent beaucoup plus que ceux du public. Il n'existe toutefois aucune uniformité, et à peine 13 % des directions ont participé au portrait des usages du numérique dans les écoles québécoises 2023 de l'Université Laval, d'où sont tirées les données ci-contre. Sans oublier que là où chaque élève dispose de son appareil, plusieurs heures d'usage ludique s'ajoutent chaque jour, lors des pauses et du dîner. Le total grimpe encore en soirée, quand les élèves sortent leurs appareils pour étudier, et en profite pour s'éparpiller dans tous les recoins du web. C'était « On traite cette génération comme des rats de laboratoire », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 29 août 2023 dans la presse.
Sarah Long-Gagné, l'agence de voyage des soins pédiatriques complexes, un texte de Geoffrey Dira, paru en octobre 2024 dans le magazine Profession Santé. Depuis août 2020, les jeunes patients de l'Hôpital de Montréal pour enfants, HME, présentant des comorbidités de complexité intermédiaire, bénéficient d'un accompagnement sur mesure. Imaginé par la docteure Sarah Long-Gagné, ce service vise à optimiser les soins et services qu'ils reçoivent, tout en misant sur une approche holistique qui les place au centre du continuum de soins. Quand elle a appris qu'elle est la lauréate d'un prix Profession Santé, la docteure Sarah Long-Gagné a d'abord été très surprise, puis très flattée. La pédiatre à l'HME du Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, ignorait que sa candidature avait été soumise. Qui plus est, par une de ses mentors qu'elle admire, la docteure Emma Patel. La chef du service de pédiatrie générale de l'HME est généralement très, très occupée. Qu'elle prenne le temps de souligner mon travail. « Ça m'a énormément émue », raconte la docteure Long-Gagné. Ce prix, elle le voit aussi et surtout comme une légitimation du concis, le service de coordination et de navigation de complexité intermédiaire qu'elle a créé à l'HME. Ce projet me tient beaucoup à cœur. Que d'autres personnes perçoivent qu'il fait une différence, c'est un encouragement car il pourrait grandir encore plus, s'étendre à d'autres hôpitaux et à d'autres patients qui ont des comorbidités chroniques. Ce sont autant d'absences à l'école, au travail et de frais inutiles évités grâce au CONSI. Le CONSI s'adresse aux enfants de moins de 18 ans, suivis à long terme en ambulatoire par au moins 3 médecins spécialistes de l'HME. Auparavant, ces patients recevaient trop souvent des soins fragmentés. Ils étaient ainsi plus à risque d'erreurs médicales, d'hospitalisation prolongée et avaient de nombreux besoins médicaux insatisfaits. Quant à leurs parents, ils pouvaient être désemparés devant la kyrielle de professionnels que leur enfant doit rencontrer et la batterie de tests qu'il doit passer au sein d'un hôpital dont ils ignorent les rouages. Le CONSI vient combler ces lacunes auprès des 450 familles qui l'accompagnent, certaines en continu depuis 4 ans. Il s'appuie sur une équipe multidisciplinaire composée de 3 coordonnatrices de soins, 2 infirmières cliniciennes, 1 infirmière praticienne, 1 agente administrative auxquelles s'ajoutent 12 pédiatres. Aux petits soins des patients. Tous bénéficient d'une consultation annuelle avec un des pédiatres du CONSI. On ne fait pas de la prise en charge. On examine le patient en adoptant une approche holistique et proactive, précise la docteure Long-Gagné. Ce rendez-vous peut, par exemple, déboucher sur un plan de soins pour prévenir les visites à l'urgence ou l'envoi d'un sommaire médical au pédiatre en communauté ou au médecin de famille, ainsi qu'aux différents spécialistes impliqués, l'idée étant de favoriser l'intégration des soins et leur continuum. Chaque patient inscrit se voit également attribuer une coordonnatrice de soins qui aide à la planification des rendez-vous et peut en synchroniser plusieurs dans une même journée, vérifier que les tests nécessaires ont été faits, que leurs résultats sont disponibles, etc. Quelques 500 déplacements à l'hôpital ont ainsi été évités en 2023. Ce sont autant d'absences à l'école, au travail et de frais inutiles évités, souligne la docteure Long-Gagné, qui voit le CONSI comme une agence de voyage spécial hôpital. Pour les patients plus complexes, une infirmière pivot s'intègre à l'équipe soignante pour jouer le rôle de chef d'orchestre. Elle s'assure que les spécialistes ne travaillent pas en silo. Elle veille ainsi à la continuité des soins et fait valoir la perspective et l'autonomie des familles, indique la pédiatre, dont la clinique et la recherche portent sur les enfants polyhandicapés ou atteints de complexité médicale. Le CONSI a aussi permis à la docteure Long-Gagné de se ressourcer après la COVID-19. Voir la différence que l'équipe fait au niveau des familles, c'est gratifiant et énergisant, observe-t-elle en signalant que cela avait également changé sa pratique. Je me suis recentrée sur les patients et leurs besoins, et plus seulement sur l'evidence-based medicine. C'était Sarah Long-Gagné, l'agence de voyage des soins pédiatriques complexes, un texte de Geoffrey Dira, paru en octobre 2024 dans le magazine Profession Santé.
La vieillesse avec un grand V. Un texte de José Panérémon, paru le 21 décembre 2024 dans la presse. Jeannette Bertrand est une femme qui a défini son siècle. Une battante qui a ouvert des portes pour les femmes et souvent les a défoncées. Elle est amoureuse de la vie et souhaite qu'elle se poursuive encore pour un bout de temps. Madame Bertrand a une compréhension viscérale des humains, des femmes, des Québécois. On s'identifie à elle, on l'admire et on aimerait toutes et tous avoir l'énergie qui l'anime encore à l'aube de ses 100 ans. L'itinéraire s'est rendu chez la centenaire en compagnie de la camelot Isabelle Beaupré, que Jeannette a accueillie avec bienveillance et une belle écoute. Voici un extrait de l'entrevue, ou plutôt de la conversation, avec cette centenaire exceptionnelle. D'entrée de jeu, Jeannette Bertrand défend son utilisation du mot « vieux » à une époque où ce terme peut être perçu comme n'étant pas très politiquement correct. Faut arrêter de dire des choses comme l'âge d'or, le bel âge. On dit bien des jeunes qu'ils sont des jeunes, et bien nous autres, on est des vieux. Ce n'est pas péjoratif, d'autant plus que si dans le passé, on parlait de la retraite à 55 ans, c'est qu'on ne vivait pas souvent passé 65 ans. Maintenant, on a une espérance de vie de 80-90 ans. Alors oui, on est vieux. Auteur prolifique, dont la mission avouée est de conscientiser et de changer les mentalités, on retrouve dans son dernier livre, « 100 ans d'amour », des réflexions sur la vieillesse et de véritables perles de sagesse. Plusieurs passages sont particulièrement interpellants, notamment l'inscription en couverture intérieure. « Si je veux des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes, je veux aussi des rapports égalitaires entre les jeunes et les vieux. » Et c'est la trame de cet ouvrage qui mériterait d'être également lue par les jeunes. Parfois, des jeunes me disent qu'ils ont lu mes livres et qu'ils ont été touchés, se réjouit l'auteur. Mais elle ajoute qu'il y a deux blocs. Les vieux qui sont ensemble et les jeunes qui sont ensemble, mais les deux ne se touchent pas, ne se parlent pas. Les jeunes, dit-elle, ne semblent pas s'intéresser aux vieux, qu'ils jugent dépassés, et les vieux ne comprennent pas les jeunes. Ce sont deux solitudes. Tout au long de l'entrevue, de même que dans ses écrits, Jeannette plaide pour un rapprochement entre jeunes et vieux. Elle souhaiterait sensibiliser la population à ce manque de considération et de respect envers les personnes âgées. Les aînés ont besoin de modèles. Par ailleurs, Jeannette trouve malheureuse la présence réduite des personnes âgées dans les médias et dans la sphère publique. C'est pourquoi elle a mis sur pied l'initiative « Les aînés en manque de modèles ». À l'instar de son projet « Écrire sa vie », lancé pendant la pandémie, grâce auquel Jeannette a recueilli plus de 2000 biographies du public, dressant ainsi un portrait de l'histoire des Canadiens français, la centenaire remet ça avec ce projet mené avec la fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Elle propose sur le site 12 capsules pour encourager les gens à lui envoyer des profils de personnes de 70 ans et plus qui sont inspirantes, des gens qui ont trouvé le moyen de vivre vieux et heureux. Plusieurs témoignages positifs y sont mis en lumière. Isabelle veut savoir. Notre camelot, Isabelle Beaupré, avait quelques questions à poser à Jeannette Bertrand, cette femme qu'elle admire. La première fois que je vous ai vue à la télévision, j'avais 8 ans. Ma mère m'encourageait à vous écouter. Avec Jeannette veut savoir, vous m'avez beaucoup aidé à mieux comprendre ma mère. Vous êtes une personne particulière dans ma vie. Vous dites des choses qui doivent être dites. Au fil des échanges sur les origines difficiles d'Isabelle, Jeannette partage avec elle ses propres souvenirs d'enfance. « Moi, je viens d'un quartier très dur, le centre-sud. Dans le temps, il se vendait de la robine, de l'alcool frelaté. Il y avait des descentes chez mes voisins qui mettaient de l'alcool à friction dans leur tank à eau chaude. J'ai passé des années à voir les deux tavernes qu'il y avait devant chez nous. Les femmes y allaient avec leurs enfants pour venir chercher leur mari. Isabelle relève qu'elle a vécu dans un milieu de femmes et n'a donc pas connu la lutte entre hommes et femmes. Moi-même, je suis un peu une femme macho. Je suis bien à l'aise dans un milieu d'hommes. Et Jeannette de renchérir, moi aussi j'ai été élevée entourée d'hommes. Je dirais que les hommes complètent bien les femmes, souligne-t-elle. Et si c'était majoritairement des femmes au pouvoir, y aurait-il autant de guerres, demande Isabelle. Ce à quoi son interlocutrice répond. Quelle bonne question. Je me la pose aussi souvent. La guerre, c'est un rapport de force. Qui est le meilleur? Qui court le plus vite? C'est comme ça avec les hommes. Pas tous, mais beaucoup. Et sur ce qui nous attend dans un monde rempli d'incertitudes, notamment avec la menace qui plane sur les droits des femmes, comme on peut le voir aux États-Unis, Jeannette s'en inquiète aussi, mais ajoute « Mes petits-fils sont des pères extraordinaires. Ça me console face à l'avenir. J'ai beaucoup d'espoir en la jeunesse. » C'était « La vieillesse avec un grand V », un texte de José Panay-Raymond, paru le 21 décembre 2024 dans La Presse.
L'organisme chez Doris reprend complètement ses activités. Un texte de Benoît Valois-Bnadeau, paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir. Après avoir dû réduire ses services en raison d'un manque de personnel, la maison d'hébergement pour femmes chez Doris annonce être en mesure d'offrir à nouveau ses services de première ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis la mi-novembre 2024, chez Doris a prolongé ses heures d'ouverture afin d'accueillir les femmes en soirée, en complément de ses services de jour et de son refuge de nuit. L'organisme est donc maintenant en mesure d'offrir des repas 3 fois par jour aux femmes dans le besoin. On prévoit d'en servir 40 000 en 2025. Nous sommes très fiers d'avoir réussi à réorganiser nos activités en moins d'une année afin d'offrir un accès en continu à nos services d'urgence. Cet ajout de services garantit aux femmes une prise en charge complète et un accompagnement optimal, a déclaré par communiqué Diane Pilote, directrice générale de chez Doris. Fondée en 1977, l'organisme aide plus de 1 500 femmes chaque année, fournissant des repas, des vêtements, des services médicaux et un accès au logement. C'était « L'organisme chez Doris reprend complètement ses activités », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir.